Bienvenue dans Nez à Nez. Vous sentez ? Oui, vous êtes bien entré dans le podcast des odeurs et des histoires vraies. Je suis Géraldine et dans Nez à Nez, je vous invite par les oreilles à ressentir l'intime et l'universel des odeurs au détour d'une émotion, un souvenir, un lieu, une rencontre. Pour m'aider à partager Nez à Nez, commentez-le, notez-le sur les plateformes, envoyez-le ou contactez-moi sur nezane-podcast.com. Merci les oreilles. Aujourd'hui, Nez à Nez écoute Meriem, une franco-marocaine qui a créé Chaëri, sa marque de soins naturels pour les cheveux bouclés ou frisés, à partir des senteurs de son pays, le Maroc, et elle nous parle de la liberté.
Alors, je m'appelle Meriem, j'ai deux enfants, Abel et Yasmine. Je suis mariée à Brice et je suis entrepreneuse. J'ai créé une marque de soins pour les cheveux bouclés, frisés, qui s'appelle Chaëri.
Alors, justement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans ta marque, tu utilises d'abord beaucoup d'ingrédients naturels et des odeurs qui sont un peu liées à ton histoire.
Alors, à la fois les odeurs, mais tout le projet est lié à mon histoire. En fait, moi, je suis franco-marocaine, j'ai grandi au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis maintenant en France. J'ai aussi vécu à Londres. Et j'ai gardé des liens très forts avec le Maroc, puisque toute ma famille y est. Et je ne sais pas, c'est peut-être la crise de la quarantaine ou autre chose, mais j'avais en tête de créer un projet qui soit un pont entre deux mondes, qui sont à la fois très proches géographiquement, quand on y pense, mais assez loin culturellement. Et je pense que les personnes comme moi, qui ont vraiment une connaissance très profonde de ces deux cultures-là, peuvent essayer, à leur petite échelle, à faire en sorte que ces deux cultures se comprennent.
Oui, super. Voilà.
Et donc, oui, pour répondre à ta question des odeurs, en fait, on a conçu nos produits comme des produits naturels, effectivement, mais aussi sensoriels. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est apporter à notre client un moment de plaisir, quelque chose qui soit vraiment un moment intime et un moment sensoriel. Et ça passe bien sûr par la texture, mais beaucoup par l'odeur.
Oui.
Et donc, quand je disais que je voulais faire un pont entre les deux cultures, je me suis beaucoup inspirée des odeurs de mon enfance. Et j'ai essayé de retranscrire ces odeurs-là dans les produits.
Quel genre d'odeur, du coup ?
Donc, moi, j'ai grandi dans, c'est ce que je disais, au Maroc. Donc, c'est des odeurs qui sont liées au soleil, liées à la mer, liées à la Méditerranée et liées à la nature là-bas. Donc, c'est des odeurs qui sont très connues, les odeurs des pays méditerranéens. Donc, c'est de la fleur d'oranger, c'est du jasmin, c'est des odeurs de citronné. C'est de la figue, c'est toutes ces odeurs qu'on retrouve dans un jardin typique de là-bas.
Il y avait un jardin particulièrement qui t'inspirait ?
Oui, il y avait le jardin. En fait, quand on était vraiment... Alors là, c'est vraiment mon enfance. Je passais mes étés chez ma grand-mère, à Rabat. Et mon grand-père avait la main verte.
Ouais.
Et il avait un super jardin. Et donc, c'est ce jardin qui m'a inspirée.
C'est bien l'émotion, c'est normal. Et est-ce que tu as appris à jardiner avec lui ?
Pas du tout. Alors pas du tout, moi j'ai eu une éducation très intellectuelle, c'est-à-dire que moi il fallait que j'étudie à l'école, que je sois une bonne élève, ce que j'ai été, et donc j'ai un manque, je suis une très mauvaise femme d'intérieur, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas... J'aime pas la déco, je sais pas jardiner, voilà, tout ce qui est manuel, je sais pas peindre, je sais pas coudre, j'adore faire, mais faire, et comme je suis un peu perfectionniste, j'aime bien faire par des pros, et quand je fais moi-même, je trouve ça boche et raté.
Tu as fait ta marque toi-même, de A à Z.
Oui, j'ai fait ma marque, en revanche, nous avons fait, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui, eux, étaient très experts dans leur métier. qui ont cru au projet, qui ont travaillé avec nous sur tous les aspects, dont les odeurs, mais aussi le graphisme, mais aussi la formulation. Mm-hmm. Voilà, moi, j'ai été plus, avec mon associé, on a été plus des...
Chefs d'orchestre.
Des chefs d'orchestre. Mm-hmm. Et on a su traduire une vision en produit.
Et alors, pour en revenir peut-être aux odeurs, est-ce qu'il y a une odeur que tu aimes particulièrement ?
Alors moi, c'est ce que je disais, c'est le jardin de...
C'est un ensemble d'odeurs, peut-être.
C'est un ensemble d'odeurs. En fait, le jardin de mes grands-parents, ça a vraiment été la source d'inspiration parce que je passais tous mes étés, il faisait très très chaud là-bas et on dormait avec tous mes cousins dans la même chambre. Et on dormait avec la fenêtre ouverte, mm-hmm. et ils avaient du jasmin. Et donc le soir, il y avait l'odeur du jasmin qui est remontée. Donc c'est vraiment un souvenir d'enfance très mm-hmm. fort. Et ils avaient un citronnier, donc... ça aussi, c'est une odeur très forte. Et ils avaient un figuier aussi, qui est une odeur très très forte, qui couvre un peu toutes les odeurs. Et ce qui est marrant, c'est que l'été dernier, je suis retournée chez ma grand-mère. Et en fait, je ne m'étais pas formulé tout ça mm-hmm. en concevant les produits. Mais je suis retournée là où habitait ma grand-mère. Et en rentrant, je me suis dit... Tiens, ça sent comme mes produits. Donc, alors que c'était comme un retour aux sources, alors que c'était pas du tout formulé dans ma tête. Ouais. Mais j'ai eu cette prise de conscience l'été dernier quand je suis retournée à cet endroit où j'étais pas allée depuis très longtemps.
Est-ce que alors il y a une odeur qui t'attire ou qui t'intrigue ?
Alors,
tu sais pas vraiment si tu l'aimes ou tu l'aimes pas.
Bah, typiquement, si on prend le jasmin à l'état pur, je l'adore, j'adore cette odeur, et en même temps, il y a quelque chose de très écœurant dans cette odeur qui peut être un peu trop fort. Donc, typiquement, ouais. Je pense que c'est à utiliser avec beaucoup de...
Avec parcimonie.
Parcimonie, avec, comment on appelle, de la maestra ou de la maestro, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il faut vraiment savoir l'utiliser pour avoir un bon rendu. C'est une odeur qui est un peu dangereuse, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Voilà, qui a un imaginaire mm-hmm. très fort, parce que c'est vraiment... hyper orientalisant comme imaginaire, mais je pense qu'il faut savoir vraiment en jouer.
La doser,
en jouer.
Voilà. Est-ce qu'à l'inverse, il y a une odeur que tu détestes ?
Alors, on va revenir à Paris.
Je ne sais pas du tout. Oui.
On va revenir à Paris et vraiment dans le quotidien parisien, c'est le métro.
Ouais.
Voilà, assez très banalement, le métro, je trouve que c'est un endroit où.
C'est quoi ? C'est les gens ou c'est le lieu lui-même ? C'est qu'est-ce qui te déplaît dans cette odeur ?
Alors moi, j'habite Gare Saint-Lazare. C'est un carrefour. Et c'est un endroit où les gens se croisent sans se regarder. Et donc, quand on est à la station de métro, il y a un peu des chocs d'individualité, je pense des chocs d'histoire qui s'entrecroisent entre des gens qui viennent ici pour travailler. C'est un quartier qui est finalement assez bourgeois, donc qui est très cadre supérieur. Et il y a beaucoup de SDF. Donc, d'un côté, il y a des gens qui sortent de leur douche le matin, qui sont très bons, qui sont très parfumés, très chics. Et de l'autre côté, il y a la misère humaine avec des gens qui ont eu des ruptures dans leur parcours qui sont ici. Et donc, quand on habite là, on est confronté à ça tous les jours. Hein. Et ça se traduit, en tout cas, Gare Saint-Lazare, par une odeur très particulière.
Ah oui, tu identifies vraiment
que j'identifie à chaque fois que je descends prendre le métro.
Qui est un mélange, en fait.
Qui est un mélange et qui est vraiment typique de cette station de métro que je trouve très dure, en fait.
Je comprends. Est-ce qu'il y a une odeur qui te fait rêver ?
Alors, rêver, je ne sais pas. Mais en tout cas, une odeur que j'adore, c'est l'odeur du coriandre coupé.
Ouais.
Parce qu'elle est très fraîche et très gourmande. Et pareil, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Elle me rappelle quand j'étais petite et qu'on rentrait de l'école pour déjeuner. Ça sentait toujours cette odeur parce qu'on met le coriandre dans toutes les salades. Voilà, coriandre coupé qui est mélangé au citron pressé. C'est une odeur très fraîche et très... très gourmande, qui me rappelle...
C'est la sauce, c'est ça, qu'on met dans les salades ?
La coriandre, on la met dans toute la cuisine marocaine et en particulier fraîche, donc non cuite, on la met dans les salades et ça a une odeur très. C'est très vert comme odeur, c'est une odeur très forte qui est très fraîche. Oui, qui est très fraîche.
Est-ce que pour toi. Il y a d'autres odeurs au Maroc qui sont caractéristiques du Maroc.
Le Maroc, c'est un pays qui a inspiré beaucoup, beaucoup de parfumeurs. Hein. Saint-Laurent, Serge Lutens, enfin beaucoup Guerlain, etc. Donc, c'est un pays où les odeurs sont très présentes, en fait, pour le meilleur et pour le pire. Hein, parce que, quand on se promène dans les rues de Casa, ça pue. Hein,
ça pue quoi ?
Ça pue les poubelles, parce que ça pue les poubelles, ça pue, c'est très pollué, c'est mal entretenu, donc c'est vraiment très dur. C'est une énorme ville qui est un peu dure, ce genre de ville dans ces pays-là. Donc, c'est pas genre. Ça sent pas la cannelle et.
et les épices.
Et les épices partout, quoi. C'est un pays où les odeurs sont très fortes. Donc voilà, ça pue.
Un peu extrême, quoi.
C'est un peu extrême parce qu'il fait très chaud. Donc les poubelles, tout de suite, ça pue. En plus, comme la cuisine est très épicée, quand c'est dans une poubelle, ça vire très rapidement. Et donc. Ça sent pas bon. Et à l'inverse, quand on est dans un souk ou dans un marché, ça sent très bon parce que c'est très concentré et c'est un mélange de plein d'odeurs différentes. Alors oui, ça sent la cannelle, le gingembre, l'eau de rose, etc. Les olives qui sentent très très bon. Donc voilà, il y a un mélange d'odeurs qui est super.
C'est vrai que moi j'ai un souvenir particulier au Maroc. En voyage avec mon père qui a vécu là-bas, qui était le quartier des tanneurs. Alors là, qu'il y a des odeurs
ça pue.
Terribles.
Oui, c'est terrible.
Enfin, terrible, mais en même temps, moi, ce n'est pas un rejet, mais c'est extrêmement puissant.
Ouais.
C'est très particulier. Et aussi l'odeur, pour moi, du pain de la Kessra, qui cuit et qui a vraiment une odeur aussi très gourmande, en fait.
Oui, l'odeur du pain, parce qu'en fait, il y a les fours à pain. Et après, ça parfume un peu toute la rue, c'est super bon. Mais c'est vrai, voilà, c'est un peu un pays d'extrême, quoi. On passe d'une rue à l'autre, et une rue, ça sent très bon, et la rue suivante pue.
Alors, est-ce que y a quelque chose de particulier pour toi, un rituel peut-être, je ne sais pas, dans la culture marocaine par rapport aux odeurs ?
Alors, il y a quelque chose qui est très. Que j'aime beaucoup, qui est vraiment très traditionnel, qui est en train de se perdre. Traditionnellement, quand on allait dans une famille de notables, vous rentrez dans cette famille, on vous fait nettoyer vos mains avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc voilà, il y a un petit.
Un petit service, c'est ça?
Oui, il y a un petit service où on rentre et on s'installe. Et la première des choses que la maîtresse de maison fait, c'est qu'elle vous verse de la fleur d'oranger sur la main, vous tend une petite serviette et donc vous vous nettoyez les mains.
D'accord.
Pour être propre en fait.
Oui, pour rentrer.
Pour rentrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, je pense que dans tous les pays arabes, il y a une vraie. Différence entre la vie intérieure et extérieure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a tout un rituel pour entrer à l'intérieur des maisons versus à l'extérieur où les gens se couvrent, se cachent et ne partagent pas. Donc c'est très très différent en fait de la culture occidentale en fait ce rapport-là. Et donc ce geste de se mettre de la fleur d'oranger sur les mains en rentrant, c'est un rituel de passage entre l'intérieur et l'extérieur. Qui est en train de se perdre, qu'on maintient pour les cérémonies du type baptême, mariage, etc. Mais qui, moi, quand j'étais toute petite et que j'allais chez mon grand-oncle ou ma grand-mère, etc., c'était quelque chose que cette génération-là faisait systématiquement.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ce que tu dis, parce que le patio des Riades, c'est quand même un extérieur dans l'intérieur.
Oui, tout à fait.
C'est encore un autre. Une petite bulle, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Non, oui, c'est la vie personnelle, elle se fait à l'intérieur.
Oui.
Voilà, tout se fait à l'intérieur et pas à l'extérieur.
C'est,
et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la culture arabe, en fait. D'ailleurs, quand on voit les palais dans ces... Enfin, je m'éloigne un peu du sujet,
non,
mais quand
c'est
on voit les palais sont... sont pas du tout
tournés
vers l'extérieur. Mmh. Ils sont toujours très discrets. Il n'y a pas de façade, il y a un grand mur, tout est caché. Et alors qu'on rentre, et là, c'est là où tout le faste se déploie. Mais il ne faut pas que ça se montre. Il ne faut, il faut pas que les gens de l'extérieur le voient.
Alors, ça me donne l'occasion de revenir à ce que tu fais avec donc les odeurs dans la marque Chahiri. Mmh. Puisque finalement, bon, d'une part, tu as choisi des odeurs quand même de ton pays, et fortes, mais qui reste très agréable quand on les sent dans les produits. Mais c'est quand même aussi, là, tu revendiques à travers ça, les cheveux libres.
Oui, je revendique. En fait, quand on dit notre devise, c'est « free your hair », les cheveux libres. L'idée, c'est aussi de jouer un peu avec ses cheveux, d'arrêter la pression sociale qu'il y a autour des cheveux, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux. Moi, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Si la personne est contente avec les cheveux frisés, elle les garde naturels. Si elle veut se faire un brushing, elle se fait un brushing. Si elle se fait un lissage, elle fait un lissage. Si elle se sent bien avec un voile, elle se met un voile. Mais chacun, en fait, il faut enlever... Enfin, je pense que d'une part, il faut dépolitiser les cheveux parce que les gens sont hystériques dès qu'il s'agit de ce sujet. Et il faut arrêter de mettre sous pression les femmes. Enfin, quand on y pense, c'est complètement anodin. Moi, j'ai passé toute mon adolescence et ma jeunesse à lutter avec ma mère qui voulait que je fasse des brushings parce que j'ai les cheveux frisés et donc c'était pas présentable
parce d'avoir les cheveux frisés. Elle fait des brushings.
Alors ma mère a les cheveux ondulés et pas frisés comme les miens, mais ondulés. Mais oui, même avec les cheveux ondulés, il faut faire des brushings pour avoir le carré parfait qui tombe. sinon, ça fait pas propre, c'est pas soigné, c'est pas présentable, c'est pas professionnel. donc voilà, donc cette pression qu'elle-même a subie toute sa vie, parce que une à deux fois par semaine, elle allait chez le coiffeur, et toutes mes tantes et toutes les femmes là-bas. Et j'étais là-bas il y a 3 semaines et je me disais, le brushing, il est bien ancré encore là-bas.
Tu vas plutôt vendre en France peut-être finalement.
Je sais pas, on verra. On verra. Mais c'est vrai que ce discours de garder le cheveu libre, je sais pas si beaucoup de gens l'entendent, mais c'est ce que j'avais envie de faire.
Donc, super, voilà. Super. Est-ce qu'il y a éventuellement une odeur qui te manque ?
Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les poncifs, l'odeur du thé à la menthe ou...
Non, mais ça peut être une odeur d'un lieu, de quelqu'un, enfin, c'est tellement large.
Ah, oui. Alors, l'odeur de ma petite fille, quand elle est née, les 6 premiers mois, elle avait une odeur très, très particulière.
Ah.
Une odeur de bébé, très animale. Et ça a duré 6 mois. Et après, elle a perdu cette odeur très particulière. Qu'elle a gardé après le bain, elle avait cette odeur-là. Maintenant, elle est plus grande, elle a plus cette odeur. Et rien que pour ça, des fois...
Nostalgie.
Voilà, nostalgie de cette odeur. Et tout le monde était étonné par cette odeur
petit animal.
De petit animal.
Et ton fils n'avait pas la même odeur.
Mon fils n'avait pas du tout cette odeur. J'ai jamais ressenti cette odeur chez quelqu'un d'autre. C'était une odeur très forte. Alors c'était ma fille, donc j'adorais cette odeur, mais c'était pas
classique.
Voilà, c'était pas agréable, ça sentait pas bon forcément. C'était un mélange de sueur, peut-être le lait, je sais pas. Mais c'était une odeur particulière qui, pour moi, c'était l'odeur de ma fille, quoi.
Mais oui. Alors, une autre question, la dernière peut-être, Mariam. Quelle est ta saison préférée autour des odeurs ?
Alors, pour les odeurs spécifiquement, j'adore J'adore l'été. J'adore quand il fait très très chaud et qu'il fait plus de 30 degrés et que le soleil crame un peu tout. Ça a un effet sur les odeurs assez particulier, même sur les habits, les t-shirts. Il y a une odeur un peu de. Je sais pas si c'est de sueur, mais non, c'est vraiment l'odeur spécifique du soleil qui réchauffe tout, qui crame un peu tout. J'adore cette odeur-là. J'adore l'odeur du sable quand il est très très chaud à la plage, à la mer. Ça a une odeur très particulière, d'un peu de cramé, de brûlé par le soleil. C'est une odeur que j'adore.
Super. Bah écoute, c'est bientôt l'été, ça tombe bien.
Voilà,
Tu vas la
j'ai hâte.
retrouver. À bientôt.
À
Merci.
bientôt.
Merci pour votre écoute. Suivez l'actualité sur le site neane-podcast.com et sur Instagram ou Twitter. À très vite, les oreilles.